Troisième jour, nonne, où Guillaume parle à Azzo du grand fleuve hérétique, de la fonction des simples dans l'Église, de ses doutes sur la possibilité de connaître les lois générales, et presque incidemment raconte comment il a déchiffré les signes nécromantiques laissés par Vénantius.
Je trouvais Guillaume dans la forge qui travaillait avec Nicolas, l'un et l'autre fort absorbés par leur ouvrage. Ils avaient disposé sur l'établi quantité de minuscules disques de verre, sans doute déjà prêts à être insérés dans les jointures d'un vitrail, et ils en avaient réduit quelques-uns avec les instruments appropriés à l'épaisseur voulue. Guillaume les essayait en se les mettant devant les yeux. Nicolas, de son côté, donnait des dispositions aux forgerons pour qu'ils construisissent la fourche où les bons verres devraient ensuite être enchâssés. Guillaume bougonnait, irrité parce que jusqu'à présent, le verre qui le satisfaisait le mieux était couleur émeraude. Et lui, disait-il, il ne voulait pas prendre les parchemins pour des prairies. Nicolas s'éloigna pour surveiller les forgerons. Tandis qu'il se démenait avec ses petits disques, je racontais à Guillaume mon dialogue avec Salvator. « L'homme a eu différentes expériences, dit-il. Peut-être a-t-il réellement été avec les Dolciniens. Cette abbaye est un vrai microcosme. Quand nous aurons ici les légats du pape Jean et frère Michel, nous serons vraiment au complet. « Maître, lui dis-je, moi je ne comprends plus rien. » « À propos de quoi, Azzo ? » ?»« D'abord au sujet des différences entre groupes hérétiques. Mais cela, je vous le demanderai après. Maintenant, je suis affligé du problème même de la différence. J'ai eu l'impression qu'en parlant avec Hubertin, vous tentiez de lui démontrer qu'ils sont tous égaux, saints et hérétiques. Et au contraire, en parlant avec l'abbé, vous vous efforciez de lui expliquer la différence entre hérétique, et entre hérétique et orthodoxe. En somme, vous reprochiez à Hubertin de considérer comme différents ceux qui, au fond, étaient égaux, et à l'abbé de considérer comme égaux ceux qui, au fond, étaient différents. » Guillaume posa un instant les verres sur la table. « Mon bon Azzo, dit-il, cherchons à poser des distinctions et distinguons donc dans les termes des écoles de Paris. Alors, disent-ils là-haut, tous les hommes ont une même forme substantielle, ou je me trompe. Certes, dis-je, fier de mon savoir, ce sont des animaux, mais rationnels, et leur propre est d'être capable de rire. Fort bien. Pourtant, Thomas est différent de Bonaventure. Et Thomas est gros, tandis que Bonaventure est maigre. Et il peut même arriver que Ugutione et Delodi soient méchants, tandis que François d'Assise est bon. Et Aldemaro est flegmatique, tandis qu'Aguilulfo est bilieux, ou non ? Aucun doute, c'est ainsi. Et alors, cela signifie qu'il y a identité. En des hommes différents, quant à leur forme substantielle, et différence, quant aux accidents, autrement dit, quant à leur terminaison superficielle. À coup sûr, il en va ainsi. Et alors, quand je dis à Hubertin que la nature même de l'homme, dans la complexité de ses opérations, préside tant à l'amour du bien qu'à l'amour du mal, je cherche à convaincre Hubertin de l'identité de la nature humaine. Quand ensuite je dis à l'abbé qu'il y a différence entre un cathare et un vaudois, j'insiste sur la variété de leurs accidents. Et j'insiste parce qu'il arrive qu'on brûle un vaudois en lui attribuant les accidents d'un cathare et vice-versa. Et quand on brûle un homme, on brûle sa substance individuelle. Et on réduit à pur néant ce qui était un acte concret d'exister, en cela même bon au moins aux yeux de Dieu qui le maintenait à l'être. Cela ne te semble pas une bonne raison pour insister sur les différences ? « Si, maître, répondis-je avec enthousiasme, et maintenant j'ai compris pourquoi vous parlez de la sorte et j'apprécie votre bonne philosophie. »« Ça n'est pas la mienne, dit Guillaume, et je ne sais même pas si c'est la bonne. Mais l'important, c'est que tu aies compris. Voyons à présent ta seconde question. »« C'est que, dis-je, je crois être un bon à rien. Je ne parviens plus à distinguer la différence accidentelle entre vaudois, cathare, pauvre de lion, humilié, béguin, bougre, lombard... Joachimite, patarin, apostolique, pauvre de Lombardie, disciple d'Arnaud, de Guillaume, disciple du libre-esprit et luciférien, comment m'y prendre ? Oh, pauvre Azzo, rit Guillaume, en me donnant une petite tape affectueuse sur la nuque. Tu n'as point tort, sais-tu. Tu vois, comme si dans les deux derniers siècles, ou encore avant, notre monde avait été parcouru par des souffles d'intolérance, espérance et désespérance tout ensemble. Ou bien non. Ce n'est pas une bonne analogie. Pense à un fleuve, dense et majestueux, qui coule sur des milles et des milles entre les digues robustes, et tu sais où est le fleuve, où la digue, où la terre ferme. À un certain point, le fleuve de lassitude, parce qu'il a coulé pendant trop de temps et sur trop d'espace, parce que s'approche la mer, qui annule en soi tous les fleuves, ne sait plus ce qu'il est. Il devient son propre delta. Il reste peut-être un bras majeur, d'où beaucoup d'autres se ramifient, dans toutes les directions. Et certains reconfluent les uns dans les autres, et tu ne sais plus ce qui est à l'origine de ce qui est, et parfois tu ne sais plus ce qui est fleuve encore, et ce qui est déjà mer. Si je comprends bien votre allégorie, le fleuve est la cité de Dieu, ou le royaume des justes, qui s'approche du millénaire, et dans cette incertitude, il ne tient plus dans ses digues. Naissent de faux et de vrais prophètes, et tout conflue dans la grande plaine où aura lieu l'Armageddon. Je ne songeais pas précisément à cela. Mais il est bien vrai que chez nous, franciscains, l'idée d'un troisième âge et de l'avènement du règne de l'Esprit-Saint est toujours vive. Non, je cherchais plutôt à te faire entendre comment le corps de l'Église, qui a été aussi pendant des siècles le corps de la société tout entière, le peuple de Dieu, est devenu trop riche et dense, et entraîne avec lui les scories de tous les pays qu'il a traversés, et a perdu sa pureté première. Les bras du delta sont, si tu veux, autant de tentatives du fleuve de courir le plus vite possible vers la mer, autrement dit, vers le moment de la purification. Mais mon allégorie était imparfaite. Elle servait seulement à te dire combien les bras de l'hérésie et les mouvements de renouvellement, quand le fleuve ne tient plus, sont nombreux et se confondent. Tu peux même ajouter à ma piètre allégorie l'image de quelqu'un qui tente de reconstruire de vive force les digues du fleuve, mais sans succès. Et quelques bras du delta sont peu à peu enterrés, d'autres ramenés au fleuve par des canaux artificiels, d'autres encore on les laisse couler parce qu'on ne peut pas tout retenir et qu'il est bon que le fleuve perde une partie de son eau s'il veut se garder intègre dans son cours et s'il veut avoir un cours reconnaissable. Je comprends de moins en moins. Moi aussi. La parabole n'est pas mon fort. Oublie cette histoire de fleuve. Cherche plutôt à comprendre comment il se fait que beaucoup de mouvements que tu as nommés sont nés il y a au moins 200 ans et sont déjà morts, que d'autres sont récents. Mais quand on parle d'hérétiques, on les met tous dans le même panier. C'est vrai. Mais c'est là un des modes de diffusion de l'hérésie et un des modes de sa destruction. Je ne comprends plus de nouveau. Mon Dieu, que c'est difficile. Bon, mets-toi dans la peau d'un réformateur des mœurs. Tu réunis une poignée de compagnons sur la cime d'un mont pour vivre dans la pauvreté. Et peu après, tu vois que beaucoup viennent à toi, même de terres lointaines, et te considèrent comme un prophète ou un nouvel apôtre et te suivent. Viennent-ils vraiment pour toi ou pour ce que tu dis? Je ne sais pas, je l'espère. Pourquoi sinon? Parce qu'ils ont entendu de la bouche de leur père des histoires d'autres réformateurs et des légendes de communautés plus ou moins parfaites, et ils pensent que celle-ci est celle-là, et celle-là, celle-ci.